marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Faut-il le lui dire, mes amis ?
Oui, oui. Ah oui.
Péril sur l'église romaine.
La réforme n'a pas un but esthétique, comme si on voulait la rendre la curie plus belle. Elle n'y doit pas être entendue comme une sorte de lifting, de maquillage, et non plus comme une opération de chirurgie esthétique pour enlever les rides. Chers frères, ce ne sont pas les rides que l'on doit craindre dans l'Église, mais les taches.
L'Église catholique risque de périr de ses silences. Le pape François, qu'on vient d'entendre, prône, face au silence, une Église de l'écoute. À l'intérieur de tous les ministères du Saint-Siège, qu'on appelle dicastère, et entre dicastères, et aussi entre conférences épiscopales. Ce jour, qui ne le sait, une réunion internationale rassemble autour de la question des abus sexuels 115 présidents et représentants de conférences épiscopales, les supérieurs des grandes congrégations et les chefs des dicastères. Et on commencera par l'écoute des victimes. Les années passant, François accumule les difficultés. Voici que paraît simultanément dans 20 pays et 8 langues un pavé intitulé « Sodoma », un livre aussi important qu'irritant signé Frédéric Martel. C'est une enquête de 4 ans qui a mis en branle 80 collaborateurs, fixeurs, recherchistes et 15 avocats. Il tire un portrait inattendu du Vatican où apparaissent 50 nuances de gay. Certains inconscients d'eux-mêmes parfois, d'autres retenus, d'autres encore pratiquants, voire flamboyants. On devine le profit que les opposants internes au pape voudront tirer de ces informations. Bien avant la parution de Sodoma, l'ancien nonce à Washington, Mgr Vigano, audacieux poisson pilote des conservateurs, a déjà demandé la démission de François, l'accusant d'être entouré d'un lobby gay. Il est sûr que ceux qui sont habitués à dissimuler pour leur compte ne sont pas nécessairement les plus portés à débusquer le mensonge chez les criminels sexuels. Mais Frédéric Martel refuse le terme de « lobby gay ». Pour lui, il ne peut pas y avoir de lobby si les homophiles, comme on dit à Rome, sont déjà majoritaires au plus haut des hiérarchies. La question est plutôt de savoir comment des homophiles, si nombreux, ont pu produire récemment autant de condamnations répétées des pratiques homosexuelles. De toute façon, aucune explication unique ne vaut pour décrire la crise présente qui est systémique au sens où elle est faite de crises particulières qui réagissent les unes sur les autres. Ceux qui en sont les principales victimes sont les catholiques, de plus en plus nombreux à s'interroger sur les conduites intrinsèquement désordonnées de nombre de clercs, et après les catholiques, les croyants des autres confessions qui se posent à leur tour des questions, et plus généralement encore ceux qui accordent quelques crédits aux institutions.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Jean-Luc Poutier, bonjour.
Bonjour.
Qui lui a été le poisson pilote d'un numéro récent de la revue Pouvoir aux éditions du Seuil sur le Vatican. Je vous observe et j'ai sous les yeux la liste des 15 maladies qui frapperaient les cardinaux de la curie, à entendre le pape. Maladie du visage lugubre.
Ça, je ne crois pas, non.
Bon, mais nos auditeurs peuvent ne pas le croire. Maladie du cercle fermé. Oui, c'est quoi vos cercles ?
Oh, mes cercles sont divers. Je suis enseignant à Sciences Po, à l'Institut catholique, au Centre Sèvres, donc c'est varié.
Puis j'avais été en poste au Vatican.
J'ai été conseiller culturel à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, absolument. Ouais, ouais. Et puis j'ai été journaliste dans divers endroits, de l'agence France Presse à Libération, au groupe Bayard.
Bon, maladie de la rumeur, du commérage,
moi, ça m'est passé, mais je peux vous certifier qu'à Rome, dans les sphères de la curie, c'est une maladie bien réelle.
Oui, parce que vous me disiez, je peux révéler cette conversation privée que nous avons eue hier, c'est pas du commérage, c'est pas aimez-vous les uns les autres, plus on monte, c'est détestez-vous les uns les autres.
Ah oui, les haines recuites, les envies, les jalousies, plus vous montez dans la hiérarchie, plus une grande partie de votre temps est occupée à essayer d'écarter celui qui est normalement votre frère et qui est devenu un concurrent ou un adversaire.
Donc on comprend comment François, à son arrivée il y a un peu plus de 5 ans, a eu l'impression de tomber dans un guépier. François qui est argentin, et chacun sait que les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol. Alors, le Vatican, le Saint-Siège, dans la capitale italienne, une archive de 1963 qui rappelle des faits anciens.
Pour la deuxième fois depuis 1870, un pape franchira le Tibre et se rendra solennellement sur le Mont Cavallo, au Quirinal, palais de la présidence de la République italienne. Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut se souvenir qu'après la prise de Rome en 1870 par les troupes royales, qui marqua la fin du pouvoir temporel des papes, les relations demeurèrent tendues très longtemps entre le Vatican et l'État italien. Le concordat de 1929 fut l'occasion de la reprise des relations diplomatiques. Jean XXIII a voulu rendre un témoignage public d'estime, de respect et d'amitié à la République. Et c'est pourquoi il se rendra cet après-midi en cortège officiel à ce palais du Quirinal, qui fut autrefois la résidence d'été des papes. Les Italiens de tous bords se félicitent de cet événement. Et ils ont l'impression qu'entre l'Église et l'État italien, il n'existe plus aucun point de contestation. C'était Pierre Corval qui vous parlait de Rome. À vous, Paris.
Alors, pour comprendre, comme disait Pierre Corval, le pape aurait pu être l'unificateur de l'Italie. Il se trouve que ça ne s'est pas passé ainsi. Et depuis l'unification, 1870 jusqu'à 1923, la date qui a été rappelée à l'instant, le pape se considérait comme prisonnier.
Oui, après le 20 septembre 1870, donc le jour où les troupes piémontaises sont entrées dans Rome par une brèche dans l'enceinte qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le mur de la Villa Bonaparte, là où est l'ambassade de France près le Saint-Siège.
Là où vous avez œuvré.
Absolument. Et depuis ce jour-là jusqu'au 11 février 1929, les papes se sont considérés comme prisonniers dans les palais du Vatican, c'est-à-dire les palais à l'intérieur de la muraille qui délimite aujourd'hui l'état du Vatican, et où il y a essentiellement des musées d'ailleurs.
Le McDonald's, il est à l'intérieur ou...
Ça, je ne saurais vous dire. Je crois qu'il est
encore
en poste. Non, je n'ai pas vu le McDonald's.
Vous n'étiez plus en poste à l'intérieur. Quand il était... Non, mais c'est un détail. Pour comprendre l'état du Vatican.
Oui.
Pour le pape, l'autorité spirituelle est quand même garantie par une indépendance territoriale, et l'état du Vatican, qui est donc reconnu par Mussolini en 1929, le permet.
Alors, l'État du Vatican est créé par Mussolini en 1929, c'est-à-dire que Mussolini donne au Saint-Siège 44 hectares de terrain, et le Saint-Siège est propriétaire de cet État. Le Saint-Siège, c'est l'administration de l'Église universelle, c'est une institution millénaire. Mais les papes, après 1870, voulaient absolument une garantie territoriale, temporelle, de leur indépendance spirituelle. C'est devenu obsessionnel. Et donc, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette garantie, ce petit territoire, ils n'ont cessé d'œuvrer en ce sens. Et on a créé cet État étrange qui, depuis, leur a apporté beaucoup plus d'ennuis que de satisfaction. À l'exception peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, période pendant laquelle les Allemands, quand ils ont envahi Rome, n'ont pas osé envahir l'État du Vatican.
Le nouveau surnom de la marge de l'histoire, c'est « Comprenne qui pourra ». Alors, il faut qu'on comprenne que Saint-Siège et État du Vatican, ce sont deux administrations qui peuvent être différentes.
Oui. Totalement différente. Le Saint-Siège, c'est l'administration de l'Église universelle. Elle existe depuis le Moyen-Âge. Et puis, après 1870, les Italiens, très fair-play, ont donné au Saint-Siège des garanties pour son indépendance. Mais les papes ont refusé. Ils voulaient un territoire. Et donc, on a fini par créer un territoire. Et ce territoire a créé sa propre administration. Donc, vous avez d'un côté le Saint-Siège, avec un Premier ministre, le secrétaire d'État, qui administre l'Église universelle. Et puis, de l'autre côté, vous avez cet État croupion, qui est administré par un gouvernorat, et qui a créé lui-même sa propre administration. Et le pape est la Constitution le dit, souverain absolu de l'État du Vatican. Dernier souverain absolu, élu d'ailleurs.
Oui, élu par le
collège des cardinaux.
Alors, pour qu'on comprenne quand même mieux, on va prendre un exemple simple. Les gardes suisses, vous savez, avec leurs casques en plastique maintenant,
oui.
qui sont fabriqués par une imprimante 3D, qui sont moins chers que les casques en acier, mais leur grand uniforme et les hallebardes sont toujours en fer.
Je pousse une porte de bois avec des vitres en cul de bouteille. Alors on dirait qu'on arrive un peu dans une auberge en Suisse, en Bavière ou en Autriche, hein. Ces auberges avec ces grandes tables de bois épaisses, ces chaises qui sont vraiment des chaises d'auberge.
On est quand même loin de notre patrie. Souvent, les gardes se réunissent pour manger une fondue. Alors, les mercenaires suisses, dans le début des années 1500, se répandaient de plus en plus dans les cours européennes. dans les cours des rois. C'était des mercenaires qui étaient très appréciés du fait de leur bravoure. Le pape fut un des premiers à décider de prendre une garde suisse pour sa protection, de façon à avoir un corps étranger, ne parlant pas l'italien, pour éviter justement tout problème lié au jeu de pouvoir, et donc d'avoir une garde fidèle, garde qui a plus de 500 ans maintenant.
Alors, la garde suisse dépend du Saint-Siège. Et il y a des gendarmes aussi au Vatican.
Alors, après la création de l'État du Vatican, il a fallu créer un service d'ordre à l'intérieur de cet État. C'est une gendarmerie pontificale. Et la gendarmerie pontificale, elle dépend, elle, du gouvernorat. Et les gardes suisses et la gendarmerie se disputent pour savoir qui garde la frontière.
Une des crises dans la crise systémique, c'est la crise financière. Non pas qu'on manque nécessairement d'argent, mais qu'on se demande parfois d'où il vient. Alors, il faut faire simple, hein, il y a un motu proprio du 24 février 2014, « Fidelis dispensator et prudence ». Qu'est-ce que ça dit, ce motu proprio et les autres textes qui réorganisent sous François les finances?
Ce motu proprio-là, en particulier, crée la fonction de ministre des finances du Saint-Siège qui n'existait pas. Et ce ministre des Finances était chargé de regrouper sous sa tutelle l'ensemble des finances du Saint-Siège et du Vatican. Parce que en 1929, il y a eu le Concordat, il y a eu la création de l'État du Vatican par un traité, et puis il y a eu un accord financier pour indemniser la papauté de ce qu'elle avait perdu. Et l'argent qui a été donné suscite depuis beaucoup de convoitises. Et puis le Saint-Siège avait gardé ses propres pratiques financières. Il a fallu attendre François pour nommer en 2014, un ministre des Finances chargé de regrouper tout cela sous une tutelle unique.
Il dit, le pape François, que le foisonnement de son administration défie la rationalité, la fonctionnalité et la sobriété.
Oui, absolument. Mais par exemple, il y avait dans ces finances du Saint-Siège un cas à part qui était celui de la congrégation Propaganda Fide, c'est-à-dire la congrégation de toutes les missions, de tous les pays qui ont été des pays de mission. Tout l'argent venant des pays d'Afrique, d'Asie, d'anciens pays de mission, était concentré là, à Propaganda Fide. Sauf qu'il se trouve qu'un de ses préfets a été mis en examen pour malversation et qu'on ne savait pas très bien de quelle façon il piochait dans la caisse.
En 2014, en guise de discours de Noël, il sonne les cloches des cardinaux de la Curie.
Curia, c'était l'administration du Saint-Siège.
Mais il dit aux cardinaux, ne soyez pas dans l'auto-référencement, vous n'êtes pas des fonctionnaires comme des autres, vous avez un message, la bonne nouvelle à porter partout. Alors en 2014, il dénonce les 15 maladies dont on a dit un mot tout à l'heure, et l'année suivante, il propose des onguents, et en 2016.
En 2014, je me suis arrêté, ayant comme modèle les pères du désert, sur quelques maladies. Et en 2015, en partant de la parole miséricorde, sur une sorte de catalogue des vertus nécessaires pour celui qui prête service dans la curie, dans ce parcours est normal, même salutaire, de trouver des difficultés qui, dans le cas de la réforme, pourraient se présenter dans différentes typologies de résistance. Les résistances ouvertes, qui naissent souvent de la bonne volonté et du dialogue sincère, et les réticences cachées qui naissent des cœurs qui ont peur, qui en réalité veulent que rien ne change. Existent aussi les résistances mauvaises qui naissent dans des esprits tordus et qui se présentent lorsque le diable inspire des intentions mauvaises, souvent habillé comme un agneau.
Sur Vatican News, parce qu'il a aussi transformé les médias du Vatican en médias global, une traduction du pape François, décembre 2016, il y va fort, hein, le démon déguisé en agneau.
Ou en ange, je crois, enfin bon.
Le traducteur dit agneau, oui. Il doit faire autorité. Mais le démon est un ange.
Le démon est un ange, déchu, mais un ange. Et oui, parce que cette administration, vous parliez d'autoréférencement il y a un instant, elle fonctionne en vase clos, chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est ce que vous découvrez quand vous êtes amené, ce qui a été mon cas, à travailler avec cette curie romaine. Il n'y a pas de coordination entre les différents services. Chacun défend son territoire, se crispe sur la défense de son territoire. Et donc, le pape François n'a pas à mener un combat frontal contre une administration coordonnée. Il doit aller dans le bilatéral, au fond des choses, avec chacun des départements, chacun des dicastères ou des congrégations, selon le nom qu'on leur donne.
Mais il devrait avoir confiance dans les cardinaux, puisqu'ils portent une robe rouge, couleur du sang qu'ils seraient prêts, disent-ils, à donner pour le pape et pour l'Église.
Présentation de mode ecclésiastique. Permettez-moi de saluer son éminence et ses illustres hôtes avant de commencer. Modèle numéro 1. Patience en satin noir, un modèle classique destiné au service. Les vêtements religieux ont subi une certaine évolution. Soutane, chasuble, étole sont désormais réalisés dans des coloris plus vifs et exécutés dans des tissus modernes qui ne nécessitent aucun repassage, ce qui est incontestablement un avantage incomparable.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Église au Vatican, au Saint-Siège, avec Jean-Luc Poutier. Bienvenue à Sodome, dit un livre signé par Frédéric Martel et qui est publié aux éditions Lafon. Alors c'est une grande équipe de près de 100 personnes au fond qui a travaillé à ses côtés. Manquait peut-être un historien, on peut être irrité par la rédaction en global English à certains moments, mais le matériau rassemblé est quand même impressionnant, auprès de 41 cardinaux, de bien davantage d'évêques, de beaucoup de prêtres, un matériau qui parfois est traité avec une grande sensibilité, voire quand il parle de Benoît XVI par exemple, qui aimait tant les grandes cérémonies somptueuses et les dentelles, voire de sympathie. Une ou deux thèses qui vont peut-être pas vous troubler, Jean-Luc Poutier. Longtemps, les gays ont trouvé refuge dans la prêtrise. Et d'ailleurs, leur mère, qui avait peut-être démêlé leurs tendances, n'y voyait que des avantages. Et comme plus on monte dans la hiérarchie, soutient-il Frédéric Martel, il y a des homophiles, des gens qui ont une tendance homosexuelle au poste important, les protecteurs aident les protégés qu'ils aiment bien. Et ça joue un rôle dans les carrières, dans les parcours.
Alors il y a certainement un effet de réseau qui doit jouer. Sur le premier point, effectivement, le recrutement de l'Église, les vocations, s'est fait pendant longtemps avec beaucoup de personnes, on dirait aujourd'hui, de tendance homosexuelle, qui, pour cacher peut-être cette homosexualité et faire plaisir à leur mère, vous le disiez, devenaient prêtres. Alors ensuite, normalement, un prêtre n'a pas de sexualité, donc ils étaient censés y renoncer. Aujourd'hui, selon les diocèses, parce que le recrutement des séminaristes se fait évêque par évêque, dans certains cas, des entretiens ou des tests psychologiques sont faits pour justement ne pas recruter de personnes à tendance homosexuelle. Ça a été expliqué à plusieurs reprises par la conférence des évêques de France. Sur le second point, le réseau, personnellement, ayant eu à travailler avec un certain nombre de dicastères de la curie romaine, je n'ai pas été frappé par cette homophilie ambiante. Ce qui vous frappe immédiatement quand vous entrez, non sans mal, à l'intérieur de la muraille léonine, c'est cette bureaucratie tatillonne et épouvantable avec laquelle il est très difficile de se dépêtrer.
Alors, on peut peut-être rappeler la doctrine, parce que ça, c'était une analyse sociologique faite par Frédéric Martel, complétée par vos observations ou questions. La doctrine, tenez. Voici le théologien de la maison pontificale, très proche de Jean-Paul II, le cardinal suisse Cottier, en 2005. Frédéric Martel, il entre dans des appartements de cardinaux, il trouve qu'en général c'est assez moche, que le goût de l'Église est quand même beaucoup dégradé, mais que c'est très grand.
Alors, j'ai rendu visite au cardinal Cottier. C'était tout petit. Oui. Mais c'était un homme extrêmement modeste, grand théologien, puisque c'était lui qui était chargé de relire les encycliques pour vérifier leur validité théologique, mais extrêmement modeste, qui ne vivait pas dans le luxe.
Je l'avais entrepris sur la question qui nous occupe aujourd'hui.
Le pape n'a pas condamné l'homosexualité. J'aime pas cette formule. Mais ce qu'il a condamné, ce qui est que la morale chrétienne condamne, il n'est pas le premier pape à en parler, c'est la pratique d'actes homosexuels, parce que la sexualité comme telle est ordonnée vers la procréation et la transmission de la vie. C'est ça.
Pour vous, c'est une évidence définitive.
C'est une évidence qui demande la réflexion, d'ailleurs.
Mais des homosexuels, par exemple, puisqu'ils deviennent des personnages centraux maintenant dans la comédie humaine, homosexuels, il est dit, ils transgressent et ils vont être nécessairement dans la détresse. C'est une sorte de qualité foncière qui leur est affectée.
C'est jamais dit comme ça. Quand c'est bien dit, c'est jamais dit comme ça.
Alors comment
Mais
est-ce faut bien
dire,
dit
si c'est quelqu'un qui porte ces tendances, ça peut être aussi une voie de sainteté, la sexualité. Ça veut dire qu'évidemment, c'est quelqu'un qui ne peut pas pratiquer la vocation normale, je dirais, générale, au mariage, c'est clair. Je pense que le fait que certains hommes se consacrent à la chasteté parfaite peut être un soutien fraternel pour tant de personnes qui ne peuvent pas pratiquer la vie sexuelle normale. Oui, donc il faut réfléchir à ces choses-là. Alors, j'aime pas les formules stéréotypées, massives comme ça qui font mal et qui sont des manques de charité finalement.
Donc c'est un désordre, l'homosexualité, quand elle n'est pas pratiquée, c'est presque une chance de retenue, d'élévation spirituelle. Et il faut dire que pendant la période de Jean-Paul II, où sont tombées en pluie toutes sortes de condamnations des pratiques homosexuelles, l'exaltation de la qualité de l'homme homosexuel a été à son plus fort.
Oui,
la personne.
Et après,
la femme.
Prenez le cas de la manif pour tous, par exemple, du mariage pour tous. À ce moment-là, l'Église a bien pris soin de rappeler qu'elle ne condamnait pas les homosexuels en tant que tels ou l'homosexualité en tant que telle. Elle leur demandait de pratiquer la chasteté. Mais la condamnation d'une espèce de nature, évidemment, avait disparu à ce moment-là.
Est mis en avant dans le livre de Martel le code maritain. Alors je vous interroge là-dessus parce que Maritain a été un grand ambassadeur de France auprès du Saint-Siège au lendemain de la guerre. Ce que Frédéric Martel appelle le code maritain, qu'on pourrait appeler le modèle maritain, consiste, même si on a des tendances homophiles et qu'on aime d'amitié beaucoup d'esprit et de corps, à ne pas pratiquer, d'ailleurs marié, Jacques Maritain avec son épouse Raïssa avait dit on arrête nos relations sexuelles. Et Frédéric Martel dit ça lui coûte pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour vous ce modèle? Je ne sais pas s'il est conservé à l'ambassade de France auprès du Saint-Siège.
Je ne saurais dire. Mais enfin, chez Maritain, ce qui était frappant, c'est que c'est rapporté dans la biographie de Jean-Luc Barré, excellent livre. Ils avaient demandé à leur confesseur le droit de ne pas avoir de relations sexuelles. Raïssa et lui, ce qui est quand même un peu étrange. Et Maritain, dans ses amitiés à Meudon, où il rassemblait beaucoup d'intellectuels de l'époque, avait beaucoup d'amis homosexuels non dissimulés, Jean Cocteau par exemple, et d'autres. Et je crois qu'ensuite, quand il a été ambassadeur près le Saint-Siège, il s'est rendu compte de la situation qui était celle de la situation d'hypocrisie. Et ce code maritain, c'est un code d'hypocrisie et de dissimulation. Parce que il y a eu, comme ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, des personnes notoirement homosexuels, qui ont pu être ambassadeurs, et il y en a d'autres récemment qui ont été refusés par le Saint-Siège comme ambassadeurs parce qu'elles avaient fait état de leur homosexualité.
Et donc, sur recommandation du nonce apostolique à Paris, dont on sait qu'il y a, d'après un certain nombre de plaintes qui viennent d'être déposées, deux, voire trois, il pourrait avoir la main baladeuse. Le pape, qui n'est pas de la paroisse, le livre de Martel défend beaucoup le pape, est tout à fait étonné quand même, même s'il est prévenu par le milieu dans lequel il tombe, et il veut bien être miséricordieux vis-à-vis des personnes homosexuelles, il ne va pas être miséricordieux vis-à-vis des criminels sexuels, puisqu'on utilise maintenant ce langage dans l'Église, oui. Dans l'Église aussi.
Vis-à-vis des personnes homosexuelles, il a dit « qui suis-je pour juger ?» Alors, tournons cette page, maintenant c'est un autre problème, celui de la pédophilie dans l'Église, problème auquel la conférence qui se réunit à partir d'aujourd'hui est consacrée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces criminels ont été longtemps cachés, alors même que leurs actes étaient connus souvent de la hiérarchie. Mais cela tenait pour beaucoup à un statut très particulier de l'Église, qui était son exceptionnalité juridique. Depuis le Moyen-Âge, il existe un code de droit canon, et les évêques qui découvraient que certains prêtres de leur diocèse étaient homosexuels devaient juger ces personnes, ou en tout cas traiter ces cas, selon le code de droit canon, et ne pas le révéler aux juridictions civiles. Et il a fallu attendre l'an 2000 en France, le pontificat de Benoît XVI 2005 avec l'affaire Massiel, et encore le pontificat de François depuis 2013, pour que l'on mette fin à cette exceptionnalité et que les prêtres coupables de crimes pédophiles soient traduit devant les juridictions civiles.
L'affaire Massiel, c'est très important. Nous sommes en Amérique latine et Massiel a un poids absolument considérable parce qu'il forme des légionnaires du Christ extrêmement nombreux et on l'en félicite, sauf que ce qui se passe dans les établissements de formation est assez sidérant.
Oui, et Jean-Paul II avait bloqué l'instruction des plaintes qui avaient été déposées contre Massiel. C'est Benoît XVI qui a laissé cette instruction aller jusqu'au bout.
Alors, vous êtes assez historien pour qu'on compte en millénaire, pour finir, Jean-Luc Poutier. Cette exceptionnalité de la justice d'Église, on la retrouve dans beaucoup d'autres caractères de l'histoire de l'Église. Et vous m'avez dit, il faut qu'on commence par la réforme grégorienne, ou plutôt qu'on finisse par elle, et qu'on en remonte au XIe siècle. Au XIe siècle.
Oui, 1073-1077, c'est-à-dire l'époque où le pape Grégoire VII a voulu réformer l'Église en faisant une institution exceptionnelle à l'intérieur de la société commune. Alors cette exceptionnalité, eh bien, c'était par exemple le célibat des prêtres, la non-sexualité des prêtres, qui en faisait anthropologiquement, des personnages d'exception. C'était l'interdiction de vendre les charges ecclésiastiques. Donc il existe des biens, des services qui échappent au marché. C'était le fait que le pape ne pouvait être jugé par personne, et c'est pour cela qu'il était élu à vie. Or, la renonciation de Benoît XVI a mis un terme à cet état de fait, à cette règle. Et puis, c'était aussi donc le droit canon et un droit d'exception pour les ecclésiastiques.
Tout ça, que vous disiez tout à l'heure.
Tout ça est en train de disparaître. Et donc, nous sortons d'un millénaire de réforme grégorienne et d'église grégorienne. Avant le Concile Vatican II, le père Chenu avait publié un magnifique article pour dire l'église va sortir de l'ère constantinienne. Et Vatican II a peut-être mis un terme à l'ère constantinienne dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin de l'ère grégorienne dans l'église.
Donc une accélération du temps. Le temps qui manque au pape, 82 ans, mais dans la course de vitesse avec ses adversaires, qui est presque une bataille à mort, semble-t-il, il a une carte dans sa manche, c'est lui qui désigne les électeurs.
Oui, c'est lui qui complète au fur et à mesure que les cardinaux du Collège des cardinaux atteignent les 80 ans. C'est lui qui désigne ceux qui ensuite seront appelés à élire son successeur au nombre de 125.
Merci à vous, Jean-Luc Poutier. Je rappelle le titre du livre de Frédéric Martel, Sodomas, c'est chez Lafon, et le numéro de Pouvoir que vous avez contribué à animer sur le Vatican aux éditions du Seuil. Clément Berman à la technique, Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco pour la préparation. Réalisation, Audrey Ripouille.